La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Lubna Serrage. Vous publiez « Pourvu qu'il soit de bonne humeur », un roman publié au Diable Vauvert. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Alors, c'est un premier roman avec un sujet très actuel, très douloureux, celui des violences conjugales, des féminicides. Vous avez choisi de donner la parole à deux femmes appartenant à deux générations différentes. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de ces deux voix, de ce dialogue entre deux femmes qui ne se connaissent pas et qui pourtant sont liées par le sang ?
Alors, vous dites que le sujet central, ce sont les violences conjugales et les féminicides. Ben, pour moi, le sujet central est plutôt une question de liberté sur toile de fond, effectivement, de violences conjugales. En fait, avant d'écrire ce livre, je me suis posé la question suivante. Est-ce que l'on peut être libre quand on est emprisonné de partout, dans un contexte de violence conjugale, dans un pays qui lui-même n'est pas libre? Et est-ce que l'on est forcément libre dans, par exemple, la période contemporaine, dans un pays qui est globalement indépendant? Et est-ce que c'est aussi catégorique d'une part et de l'autre? Et donc j'ai choisi effectivement le contexte et le sujet des violences conjugales, parce qu'il me semble effectivement que c'est un sujet actuel, que contrairement à ce que l'on pense, nous n'en parlons pas assez. Quand je dis nous n'en parlons pas assez, c'est-à-dire que souvent nous ne donnons pas la parole aux principales personnes concernées. Et c'est ce que j'ai voulu faire en fait. J'ai mis donc deux personnages, comme vous l'avez dit, une femme du nom de Maya qui vit à l'époque, au Maroc, à Fès, mais à l'époque de la colonisation, et une autre femme qui s'appelle Lilia, qui est sa petite fille qu'elle ne connaît pas, et qui vit donc à l'époque contemporaine.
Et c'est un roman sur la transmission des traumatismes entre générations, puisque Lilia, qui n'a pas connu sa grand-mère, Maya, a le sentiment qu'un dialogue s'est noué avec elle par-delà la mort. Elle va d'ailleurs mener sa propre enquête et découvrir même des preuves de ce que sa grand-mère a enduré et subi.
Alors, c'est un roman effectivement sur la transmission. Alors, quand celle-ci ne se fait pas par des moyens matériels, quand celle-ci est, on va dire, quelque part un peu oblitérée, eh bien, il y a d'autres moyens, et c'est ce que j'ai voulu faire comprendre avec cette histoire, c'est qu'à un moment donné, Maya, dans les années 50, veut raconter cette histoire, et Lilia, dans les années 2020, est assoiffée, elle reçoit des messages que parfois elle ne comprend pas, et donc elle va mener cette enquête, elle va aller à la recherche de cette voix qu'elle sent, et qui aussi va lui permettre de répondre à des questionnements qu'elle se pose, et comme je disais tout à l'heure, par rapport à sa propre liberté, et avec ces questionnements, avec ce besoin de comprendre de part et d'autre et de transmettre, effectivement, c'est via d'autres canaux que des canaux matériels, visibles, que cela se passe. Alors, je ne vous dis pas comment ça se passe, mais c'est globalement par cette forme de transmission que on va dire, une voix peut s'exprimer, qui est celle de Maya, et une autre voix, celle de Lilia, peut aussi être un peu plus apaisée, finalement.
Alors, vous racontez la société patriarcale du Maroc des années 30 aux années 50, les années 60, et vous parlez de l'enfance de Maya avec ce que vous dites au départ. Je vais citer votre livre. Depuis un an, elle avait dû à regret arrêter ses études car elle est née femme. Si ses parents avaient vu d'un bon œil qu'elle sache lire et écrire en arabe et en français, ils avaient été intransigeants quant au fait que cela suffisait dès qu'elle avait atteint ses 14 ans. Donc elle a une première liberté, c'est celle d'apprendre à lire et à écrire, mais finalement cette liberté est stoppée net.
Tout à fait. C'est ce qui se passe dans beaucoup de sociétés, c'est ce qui se passait à l'époque dans beaucoup de sociétés, ce qui se passe encore aujourd'hui dans certains pays aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, et d'ailleurs Maya a conscience qu'elle a de la chance d'avoir appris à lire et à écrire pendant toutes ces 15 premières années, mais il y a un moment où effectivement le destin d'une femme n'est absolument pas le même que celui d'un homme, et le destin d'une femme doit être sa famille. On voit effectivement la femme comme étant prédestinée à être mère avant tout, donc c'est son rôle central, ce qui existe. Enfin, je parle de la société marocaine, mais c'est une pensée qui est encore très tenace dans plusieurs pays, des plus évolués ou moins évolués, on va dire. Et donc effectivement, elle est stoppée net dans cette soif qu'elle a de savoir, de livres, etc. Elle est stoppée net officiellement parce qu'elle ne peut plus aller à l'école, mais elle se débrouille grâce à son frère pour garder ce lien avec les livres.
Et Maya appartient à la génération de ces femmes qui découvrent leur mari à l'âge de 15 ans, le soir de leur mariage. Et l'horreur pour elle commence le soir de la nuit de noces, ce qui résume finalement l'attitude du mari. Ça va être cette phrase qu'il lui assène: « Tu es ma femme, je fais de toi ce que je veux ».
Oui, c'est-à-dire qu'elle arrête net ses études, effectivement pas par choix, comme on a dit, et puis on lui annonce qu'effectivement elle doit se marier, comme c'était le cas à l'époque pour plusieurs familles. Et finalement, au début, comme c'est ce qui se passait un peu partout, donc elle n'est pas tellement dans une forme de rébellion, c'est-à-dire qu'elle se dit oui, c'est comme ça que ça doit se passer finalement. Elle est limite un peu résignée, surtout quand grâce à un petit stratagème, elle arrive à voir la photo de son futur mari, donc de Hichem. Et finalement, elle le trouve plutôt beau, plutôt attrayant, donc elle se dit que dans tout ce malheur, elle est plutôt chanceuse. Sauf que, comme vous le soulignez, donc la nuit de noces, c'est là où tout se passe, et c'est la nuit de noces où elle subit un triple viol, et où son mari a cette idée que une femme est à la merci de son mari, quoi qu'il veuille en faire, qu'elle n'a pas voix au chapitre, et que elle est en fait sa chose. Ça, c'est une pensée qui existait à l'époque, et je pense que c'est une pensée qui persiste aussi aujourd'hui dans plusieurs sociétés d'ailleurs.
Loubna Serra, j'en viens au titre de votre roman, très beau roman, pourvu qu'il soit de bonne humeur. C'est une sorte de mantra que prononce Maya, en tout cas c'est une phrase à laquelle elle pense plusieurs fois par jour, car elle redoute les coups de son mari quand il rentre à la maison.
Oui, alors vous savez, pour écrire ce livre, effectivement, c'est un roman, mais j'ai voulu aussi écouter du coup les femmes qui ont subi ou qui subissent de la violence conjugale. J'ai voulu aussi écouter des hommes qui ont eu à frapper leur femme. Donc je me suis beaucoup documentée. Enfin, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que ces femmes, en général, vivaient quand même la peur au ventre. C'est-à-dire qu'elles étaient à la merci de tout et n'importe quoi. Il suffisait qu'il y ait un tout petit incident, aussi anodin soit-il, pour que l'humeur du conjoint change du tout au tout et qu'il y ait effectivement de la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Et le plus souvent, effectivement, c'est l'escalade de la violence verbale à la violence physique. Et ce qui revenait, donc, c'était ce qu'elle voulait à chaque fois, c'était c'est aujourd'hui, j'espère qu'il sera de bonne humeur, pourvu qu'il soit de bonne humeur. Et effectivement, ça devient un mantra. Ça devient un mantra que Maya répète au fur et à mesure, parce que s'il est de bonne humeur, eh bien, il n'y a pas de coup. S'il est de bonne humeur, il y a un moment de répit. Et les moments de répit, elle n'en a pas eu beaucoup dans sa vie. Elle va essayer à un moment donné de se réfugier dans son imaginaire, dans sa bulle de liberté qu'elle va se créer, qu'elle va arracher. Et c'est peut-être aussi l'un des messages les plus importants que je voulais transmettre avec ce roman, c'est que la liberté est quand même quelque chose de très précieux, et que quand on est victime de violences conjugales, nous ne sommes pas que des victimes de violences conjugales. Et c'est peut-être cela que certaines personnes violentes veulent finalement effacer, c'est l'identité des victimes. Eh bien, elles ne sont pas que des victimes, elles sont beaucoup, beaucoup d'autres choses.
Vous l'avez dit, vous avez voulu entendre aussi la parole des hommes auteurs de violences. Et alors, il y a plusieurs voix qui s'expriment dans ce roman, principalement les voix de Maya et de sa petite fille Lilia. Mais à un moment du livre, on entend la voix de l'agresseur, Hicham.
Oui, alors c'est un roman polyphonique, effectivement, donc je voulais que tous les protagonistes aient une partie, on va dire un espace dans lequel s'exprimer. Alors oui, j'ai voulu aussi donner la parole à Hicham, non pas pour l'excuser, non pas pour qu'il puisse être dans une forme de repentance, mais c'était plutôt pour avoir aussi sa vie, son vécu, le cheminement qu'il aura fait à un moment donné, et aussi pour comprendre que derrière chaque agresseur, il y a aussi toute une histoire qui construit cet agresseur. Alors évidemment, il y a aussi, et ça je le souligne beaucoup dans le roman, il y a aussi le libre arbitre, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que fatalement on a une histoire qu'on est conditionné à reproduire des schémas et être aussi dans l'agression, ou bien dans une sorte de victimisation, mais il y a des circonstances, il y a des choses qui se passent. Et ce que j'avais aussi envie de montrer, ça c'était l'un des quand même des chapitres les plus difficiles à écrire pour moi, mais c'était pour moi nécessaire. C'était, Hicham doit aussi parler, Hicham doit aussi s'exprimer, parce que ce n'est pas en niant une parole, qu'elle soit des victimes ou des agresseurs, que l'on arrive à vraiment identifier le problème et comment y remédier.
Loubna Serraj, ce qui est terrible avec le mari de Maya dans votre roman, c'est qu'il apparaît comme un être charmant aux yeux du reste de la famille et des amis. On ne soupçonne pas le monstre qu'il est dans le privé. C'est souvent le cas dans les violences conjugales, puisque Maya, on lui dit qu'elle a beaucoup de chance d'avoir un tel mari.
Et oui, beaucoup de personnes à qui j'ai parlé, enfin, j'ai pas mené d'enquête, on va dire exhaustive, mais c'est effectivement quelque chose qui revient assez souvent. C'est de dire, mais cette personne, mais elle est charmante. Mais en fait, vous avez de la chance de l'avoir dans votre vie. Et finalement, ça mène à une double culpabilisation de la victime. Sachant que Hicham, on le notera, n'a pas que des rapports violents avec les femmes, c'est-à-dire qu'il a des rapports violents avec sa femme, mais il a des rapports tendres qui sont, on va dire, normaux entre guillemets, avec d'autres femmes. Donc ça vous montre aussi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de libre arbitre, ça montre aussi qu'à un moment donné, les personnes qui sont dans ce schéma de violence conjugale, eh bien le font aussi en une forme de connaissance de cause. Et que c'est surtout un schéma qui s'installe, c'est un schéma qui est assez pervers d'ailleurs, et qui s'installe entre la victime et son agresseur. Et c'est comme une espèce de cycle, de schéma répétitif qui continue et qui se nourrit. Alors vis-à-vis des autres, on a l'impression, la famille, etc., ne voit que la façade, ne voit que le gendre très agréable, qui est aux petits soins, qui ne montre rien, etc. Et il faut dire que Maya ne parle pas de ses coups, ne parle pas de ses agressions, parce qu'elle les vit globalement dès le départ comme une forme de honte. Mais même si elle n'en parle pas, les personnes de l'entourage sentent qu'il y a quelque chose, savent qu'il y a quelque chose. Donc à plusieurs reprises dans le roman, vous avez des personnes qui peuvent intervenir. Mais elles ne le font pas, parce que c'est aussi là une forme de primauté de l'ordre social, de l'ordre familial à l'intégrité de la personne et à l'importance de la personne. Une femme n'est rien par rapport à un ordre social, une femme n'est rien par rapport à un ordre familial. Il faut que les apparences soient préservées.
Alors ce n'est pas un livre binaire qui dépeindrait tous les hommes comme des monstres, puisque Maya est très proche de son frère Marwan, qui lui passe des livres secrètement, et sans trahir l'intrigue de votre roman, Marwan vivra jusqu'à un âge avancé, et il sera dépositaire en quelque sorte de la mémoire de sa sœur.
Tout à fait. Alors, merci de souligner le personnage de Marwan, parce que lui-même n'est pas, si vous voulez, l'antithèse de Hicham. Lui-même a ses parts d'ombre, parce que lui aussi sent qu'il y a quelque chose de pas très sain dans le mariage de sa sœur, mais choisit de fermer les yeux. Donc effectivement, je pense que les êtres humains sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus beaucoup plus complexes et qu'il n'y a rien, enfin que c'est beaucoup trop simple de dire qu'il y a le mal d'un côté et le bien de l'autre. On est tous traversés par beaucoup beaucoup de choses, par nos moments de petit courage et nos grandes lâchetés. Et c'est ce que je voulais aussi montrer, c'est que c'était quelqu'un, Marwan, effectivement quelqu'un qui va être là aux côtés de sa sœur pendant toute sa vie. Il il va être, on va dire, quelque part aussi sa bulle de liberté vers le monde extérieur, parce qu'il va lui permettre effectivement de lire beaucoup de livres, mais aussi autre chose que je ne voudrais pas divulguer, donc de sentir quand même qu'il y a un sens à sa vie. Mais aussi Marwan, c'est aussi la personne la plus proche de Maya, c'est la personne aussi qui sait qu'il y a quelque chose qui cloche, qui sait que sa sœur n'est pas heureuse, qui sait que sa sœur souffre, mais qui va préférer fermer les yeux. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un de condamnable à 100%? Je ne pense pas. Est-ce que ça fait de lui un saint à 100%? Je ne le pense pas non plus.
Et c'est un roman, Lougna Serraj, où l'on remonte le temps de la Deuxième Guerre mondiale à l'indépendance du Maroc jusqu'au Irak d'aujourd'hui. C'est un roman où l'histoire est très présente également.
Oui, alors je voulais commencer ce roman avec effectivement la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est en même temps l'annonce d'une guerre qui, enfin à l'international du coup, dans laquelle le Maroc aussi a eu une partie prenante, parce qu'elle va aussi conditionner pas mal de mouvements et de réactions, notamment dans les moments de résistance, etc. Et aussi, donc, avec cette Deuxième Guerre mondiale, il y a aussi la guerre de l'intime qui commence pour Maya. Donc ce parallèle me paraissait assez important, et surtout, comme je disais tout à l'heure, je voulais la positionner aussi dans un pays qui était le Maroc, à une époque où le Maroc était colonisé, donc pas indépendant, donc avec beaucoup aussi d'histoire et beaucoup de contraintes. Et globalement, effectivement, je voulais aussi positionner Lilia dans l'époque contemporaine, avec un Maroc post-indépendance, avec un Maroc qui est aussi assez problèmes, assez particularités, assez mouvements sociaux également. Et finalement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de lien de la liberté. En fait, pour moi, la liberté est en filigrane dans tout cet ouvrage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se pose la question, est-ce que laquelle des deux personnes est la plus libre? Laquelle des deux personnes est finalement la plus libre? Et contrairement, et sans spoiler, contrairement à ce que l'on peut penser, eh bien, on peut aussi, tout en étant libre, tout en étant libre physiquement, eh bien, s'enfermer dans des schémas, dans des mécanismes ou dans des stéréotypes. Et c'est un peu ce que Lilia va avoir, et c'est de cela qu'elle va pouvoir se sortir grâce du coup à Maya.
Merci Lougna Serraj. Je rappelle le titre de ce très beau premier roman, pourvu qu'il soit de bonne humeur, un roman publié aux éditions du Diable Vauvert. Merci.
Merci beaucoup pour l'invitation, merci à vous.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.